et vous écoutez France Culture. Les grands sentiments ne sont-ils pas la fiction qui permet au cœur tendre de pactiser avec la luxure? Prévalions. Polar en ce samedi à Mauvais Genre qui vous convie à danser une ronde toujours aussi macabre en rentrant dans son cercle noir. Ils seront ce soir évoqués Côté Ghetto de Gilles Léovy chez Sonatine, après la chute de Denis Léane chez Rivage et L'été de Katia de Trévagnan chez Gallmeister, une émission que nous ouvrirons par un hommage au romancier noir Hervé Prudhon, récemment disparu. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre spécial polar, et fort justement intitulé Le Cercle Noir, puisqu'il s'agit d'un cercle fatal qui vous fait danser jusqu'à la mort. Et ce soir, nous danserons jusqu'à la mort avec vous, Aurélien Masson.
Bonsoir.
Aurélien Masson, ancien directeur de la série Noire, futur leader, aux éditions.
Voilà, directeur de collection, c'est enfin, on va ouvrir un autre bar.
Un autre lieu, on dit. Et où ça?
Aux arènes, et ça s'appellera Equinox, et puis ça commencera en mars, et puis...
Voilà, on vous pose pas les traditionnelles questions sur et quels sont les auteurs qui vous suivent, et à quoi ressemblera la couverture, est-ce que vous aurez beaucoup de traductions, essentiellement des auteurs francophones. Bon, on attend et on posera en temps et heure ces questions passionnantes. Une nouvelle voix dans Mauvais Genre, Macha Seri, bonsoir.
Bonsoir François.
Macha Seri, donc journaliste au Monde et alors aussi leader, son lieu qu'on peut le dire, sa boîte, son club s'appelle Mélange des Genres.
C'est ça.
Voilà, donc notamment le polar, et depuis bien des années, et donc bienvenue au club Mauvais Genre, bienvenue donc dans la danse et le cercle noir, Élise Lépine.
Bonsoir François.
A déjà dansé avec nous maintes fois, et continuera à danser encore, j'imagine, un certain temps. Pas d'actualité, Élise Lépine?
Non, toujours pas. Toujours pas. La vie est plate et uniforme.
Toujours pas d'actualité. Bon. Hubert Prolongeau, lui, croule sous l'actualité, puisqu'il a plus vécu en 3 mois que nous en 20 ans. Vous étiez où, Hubert?
J'étais au Groenland.
Au Groenland.
Et je chassais le phoque en chien traîneau.
Mais c'est interdit, ça.
Ça n'est pas interdit du tout. Il y a quelques quotas, mais le phoque foisonne tellement que même lui échappe au quota. On peut donc l'exterminer. Alors,
racontez-nous ce moment intense où votre harpon s'est fiché dans la chair du phoque.
Ah, c'est
ça. On va se faire des amis, là.
En fait, j'ai fait des trous dans la glace.
Ah oui.
Et qu'elles sont muscles, le bras qui s'y emploie, puisqu'il n'y en a qu'un. Et on tend un filet ensuite. Et la bête, malheureusement, vient s'y prendre. Et comme elle est coincée, elle ne peut pas respirer et elle meurt étouffée.
Ce qui est assez horrible.
Alors, je précise avant que tous les véganes et militants de la cause animale ne me condamnent définitivement, que le Groenland est un pays où planter du quinoa est assez peu productif et où, si on ne mange pas des phoques, ce sont les Groenlandais qui meurent, et que c'est un pays dont c'est moins vrai aujourd'hui, puisque, effectivement, il y a des importations de nourriture nombreuses. Mais c'est un pays où la tradition de chasse était peut-être plus que partout ailleurs dans le monde un élément de survie réelle, et que les années où les rennes se déplaçaient, où les phoques n'abondaient pas sur les côtes groenlandaises, étaient des années de famine qui souvent ont été dévastatrices pour pas mal de gens. Donc aujourd'hui, beaucoup de l'alimentation groenlandaise est encore basée sur la chasse, dont celle du phoque. C'est pour ça que je me suis livré, à des fins documentaires, je le précise,
à cet exercice que je relaterai
dans quelques mois quand cet opuscule sera écrit.
Donc le Groenland, rien à voir avec Groland, me dit.
C'est assez différent, effectivement, mais on peut s'y amuser aussi pas mal.
Merci mesdames, merci messieurs. Voilà ce soir donc le plateau de Mauvais Genre, mais il est totalement complet. Il ne serait totalement complet sans notre amie Céline Duchesnet, qui va ouvrir, et nous ouvrons avec elle, l'encyclopédie pratique des mauvais genres, la lettre...
Je vous propose ce soir la lettre D comme D. De l'air, quid de l'air.
Union entre deux inconnus fourbus. Union of two exhausted strangers. Toi que je n'ai jamais touché. Toi que j'aime déjà malgré moi. You that I love besides me. Tu ne m'oublieras pas, car je serai là, dans ton désir malgré toi. You will never forget me, as I will be there in your desire besides you. L'avenir est plein de promesses, si nous savons l'apprivoiser. The future is full of promises, if you don't know how to tame it. Je t'ensorcellerai, moi, la sorcière d'or qui jette des sorts parmi les ressorts, pour que tu me regardes encore et toujours, à travers ton regard de verre et de feu, peut-être avec amour. I will put a spell on you. I, the Golden Witch, bewitching among the springs. So you will look at me again and always through your glassy and fire maybe with love gaze.
Il y a cette photo de Quid de l'air, poétesse et performeuse, plan resserré sur le buste nu de l'artiste, qui fixe un point au-dessus de nos regards. Les cheveux sont sauvages, les seins sillonnés de lignes rouges et violettes qui retracent le chemin d'artères et de veines fictives. Un quadrillage trouble qui érotise le corps tout en le faisant basculer vers une esthétique néo-gothique presque morbide. Pourtant, si l'on tend l'oreille, on croit entendre derrière chaque vaisseau sanguin un cœur qui bat. Un concert de cœur tout en rythme, gorgé de sang et de vie. Quid de l'air se pose là, grande prêtresse de l'amour, qui à travers chaque poème écrit comme une partition sonore en anglais et en français, offre un hymne au corps féminin.
Le squelette en fait, de ma poésie est tourné autour de l'esthétique, de l'érotico-mystique. Et il s'agit de, grâce à la poésie sonore, de développer les concepts de spiritualité, d'érotisme, d'amour, d'éros, et du corps, de la sexuation, de la sexualité, puisqu'on arrive aujourd'hui à une spiritualité sans sexualité et une sexualité sans spiritualité. Et ce lien entre le sacré et le corps et l'éros est vraiment le fil conducteur de mon travail.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est votre religion ?
Je pense que l'art est mon sacerdoce. Et dans cette pratique, il y a quelque chose de très ascétique. Je recherche une forme, oui, de divin dans cette pratique qui m'est chère.
Alors le dieu ou la déesse, d'ailleurs, comment se nommerait-il ?
Ce que j'aime dans l'Antiquité, c'est qu'Eros est le dieu de la fusion. C'est le dieu de l'amour, mais c'est surtout un esprit. Initialement, en fait, Eros est asexué. Et donc... C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de dire si c'est un dieu ou une déesse. Au final, il incarne et il a quelque chose de l'ordre de l'être. Il se suffit à lui-même. Et donc, du coup, il peut se répandre et se diffuser.
Cimetière ma mère. Prendre le sein à bras le corps. Rendre la main à bout de souffle. Dans le bout des bras congestionnés, sous le rêve attardé. Dans le nuageux suffoqué. Encerclé dans la vulve amère du cratère sucré, sucé dans la saillie calcinée, d'une humeur aérée dans la laine moite de la soie rugueuse. Pour que la caresse blesse le reste de la fesse, dans une mollesse pleine de paresse, cesse de serrer la poudre ourlée de la courbe boutonnée, sous le mouvement vain du rein moutonné, par les pourtours outrés de l'amour amoureux, de l'amoureuse ouvreuse de tombes cimentées.
Pour découvrir le monde de la poétesse et performeuse Quid de l'air, vous pouvez lire Les glaces avortées, recueil bilingue de poésie, sorti aux éditions Elsevier, ou la retrouver du 8 au 14 décembre à la Galerie de la Voûte à Paris, lors de son exposition intitulée Les 13 bouches sacrées de l'Éros. Au programme, des poèmes auxquels répondent les photos de Charles Bayonne, photographe. Le vernissage aura lieu le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, ce qui, vous le verrez, sur place ne relève pas du fruit du hasard. Lecture, performance, et pour plus d'informations, de site internet www.quidelair.com ou www.galeriedelavoute.com.
Quid de l'air de l'encyclopédie pratique des mauvais genres, l'art est mon sacerdoce, ma chère série. C'est une formule que vous faites vôtre également.
C'est très très ambitieux. Vraiment, j'ai rien à dire sur le sujet.
Aurélien Masson.
Non plus. Moi, je suis très heureux, je suis très content. Voilà. Je souris.
Voilà. Poésie, Élise Lepine, une poésie vous a mis en.
Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était romantique, sentimental. Moi, on m'appelle Miss Bébé Phoque, hein, contrairement à mon voisin Hubert Prolongeau.
Très bien. Ben donc, Quid de l'air, l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Je rappelle une nouvelle fois, et j'apprends que certains ne l'ont pas encore, que l'encyclopédie pratique des mauvais genres a fait l'objet d'un livre aux éditions Nada. Et que c'est bientôt Noël, hein ?
Et que si jamais vous avez une envie de cadeau, eh bien, ruez-vous vers toutes les bonnes librairies, bien sûr.
Bien évidemment. Merci Céline. En tête de cette émission, comme je l'ai évoqué en sommaire, eh bien nous allons rendre hommage au romancier Hervé Prudhon qui avait été notre invité il y a un certain nombre d'années pour son dernier roman « Les langues chiennes ». On l'écoute.
Elle est comme ça dans le Pas-de-Calais, elle est chez elle et elle emmerde tout le monde. Je veux dire, elle est entière,
bien sûr.
Elle est décrite comme telle. Elle est comme un animal, je veux dire, elle est comme un animal chez elle, dans sa tanière, dans son terrier ou sur son territoire. Et elle est décrite comme n'étant pas forcément très belle, mais comme étant complètement animal. Je veux dire, elle a un côté vraiment...
Elle est comme mieux que belle.
Elle est mieux que belle.
Elle est mieux que belle.
Elle est mieux que belle. Elle est complètement attirante et séduisante, je trouve. Et elle emmerde tout le monde avec le reste. Elle est comme ces mecs, je veux dire, maintenant, il y a partout en banlieue, qui vous disent qui traitent les gens d'un télo, où c'est une insulte d'être un télo, et où c'est mieux d'être un con, quoi. Je veux dire, elle ressemble à tous ces gens qu'il y a maintenant partout.
Hervé Prudhon, donc, à mauvais gens, c'était en 2008, effectivement, il avait été notre invité pour La Langue Chienne. Alors, Hervé Prudhon, quand on lit les textes, les articles, les nécrologies qui ont été rédigés au moment de son départ en octobre, Aurélien Masson, on voit un personnage écharpé, déchiré, personnage jamais en paix ni avec lui-même ni avec la société, une forme de grand maudit du roman noir, avec une œuvre placée sous la vocation de Céline, à qui il avait consacré son premier travail universitaire, de Beckett, genre l'espèce de fascination pour l'absurde et pour le cap sur le pire, pour citer une œuvre de Beckett. Beckett qu'il a même observé dans la rue, une véritable fascination. Vous l'avez édité, comment était le personnage?
Alors moi j'en ai une toute autre vision. C'est-à-dire que Prudhon, je l'ai d'abord découvert à travers un livre qui était Ours et Fils, qui était un livre qui me fait toujours pleurer. Là je l'ai relu à l'occasion de son départ. Et entre-temps, je suis devenu père. Donc, et c'est toujours aussi fort et juste. Et Ours et Fils décrivait en fait un père et un fils adolescent qui doit avoir 15-16 ans, qui refuse de vieillir. Ils ont envie de rester ensemble et de passer des journées ensemble comme quand le fils était gamin et que le père était pas un peu moins âgé. Et puis ils se décident comme ça à partir tous les deux, ils quittent la famille, ils quittent la France. Je crois que ça se finit sur des banquises, alors je sais plus si c'est Pôle Nord ou Pôle Sud. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça magnifique. Et en lisant ça, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir un père comme ça. Enfin, moi c'est la tendresse toujours qui m'a touché chez Prudhon. Le côté désespéré, dur, je l'ai jamais vraiment vu. Enfin, ça n'a jamais été ma relation avec lui. Vu que je suis un peu moi-même parfois désespéré, son désespoir était en fait, on partageait ça allègrement. Et surtout, j'adorais effectivement son allure. On aurait dit une statue de Modigliani, un peu, quoi, toujours comme ça, un peu en train d'avancer contre le vent, un peu courbé, avec son grand manteau long. Donc, quand j'ai lu ce livre, très vite, peu de temps après, il y a un éditeur américain qui m'avait contacté pour faire un recueil de nouvelles qui s'appelle Paris Noir, qui est en poche, hein, vous pouvez le lire. Et en fait, ce recueil était pour moi l'excuse un peu de contacter des auteurs que j'aimais pour essayer de leur faire écrire des nouvelles. Donc j'avais appelé Modiano qui m'a dit « j'aimerais bien, mais des nouvelles, c'est trop compliqué pour moi ». J'étais un peu déçu. J'ai appelé Prudhon et puis on s'est rencontrés et voilà, c'était une évidence. J'ai le souvenir de quelqu'un avec des grands yeux bleus et puis la bouche un peu cassée. D'un mec très maigre, qui quand il toussait, on avait l'impression qu'il faisait 10 mètres de large, tellement ça résonnait à l'intérieur. Il m'a dit, mais oui, on va faire une nouvelle, pas de problème. Et il m'envoie cette fameuse nouvelle qui s'appelle Rue de la Santé, où justement il parle de Beckett. Et c'est un condensé pour les auditeurs, si vous lisez cette nouvelle, il y a un condensé de Prudhon en 20-30 pages, hein. Donc c'est Prudhon qui marche rue de la Santé, donc rue de la Santé.
Qui longe la muraille de
voilà,
la prison.
Donc il y a la prison, il y a l'appartement de Beckett, il y a son fantôme qui plane, il y a des bars, il y a des rebeux, il y a des mecs qui ont des pistolets dans des sacs en plastique. On ne sait pas vraiment si c'est des pistolets ou des pistolets en plastique. Voilà, il y a pas d'intrigue et en même temps des mots qui voilà s'enroulent les uns sur les autres parce que c'est ça que j'aime chez Prudhon. Au début, quand j'avais pas lu Prudhon, c'est parce que je dois avouer que ces jeux de mots là sur ces couvertures, genre vinyle rondelle ne fera pas le printemps et tout ça, ça me faisait un peu peur. Je suis j'aime pas les jeux de mots pour les jeux de mots, mais Prudhon, c'est pas des jeux de mots. Il joue avec les mots et il va au bout de la logique. Tout ça, c'est des sonorités, des assonances, des échos. Et je pense notamment à dans La Langue Chienne. À un moment, il parle. Ça se passe dans le Nord et il parle de la côte d'Opale et il décrit tous ces gens, des gens de peu un peu. Et il parle de la côte d'eau, le dos qui est pâle parce qu'il y a peu de soleil là-bas. Et donc côte d'opale, pour moi, c'est pas un jeu de mots, genre ah, tire-moi le doigt et pout pout pout.
C'est plutôt lacanien comme.
Voilà. Et ça n'en finissait pas avec Prudhon. Ça n'en finissait pas, c'est-à-dire que j'ai gardé, alors pas assez malheureusement, mais j'ai gardé ses mails. Et les mails, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a l'impression de haïku, des choses sublimes, parfois même plus jolies que dans ses livres, parce que c'était très tenu. C'est-à-dire que Hervé, il n'était pas du tout passionné. Et ça fait du bien dans ce monde. Où le polar devient vraiment, faut faire du volume et des chiffres. C'était un mec qui aimait bien l'imparfait. Et ses livres étaient imparfaits. C'est peut-être pas certains n'aiment pas le début, d'autres la fin, le milieu. Mais en tout cas, ce sont des expériences, voilà, qui vous transpercent. Et donc après, après cette rue de la santé, on s'est plus quitté. Et donc on a fait la langue chienne. Faut le dire quand même parce qu'on est dans un monde. Féroce, la langue chienne, on en a à peine vendu 1000 exemplaires, ce qui était un sublime livre.
Il faut venger la langue chienne. Voilà, achetez, lisez, offrez la langue chienne pour Noël. C'est un immense bouquin.
Voilà. Jérôme Leroy l'a repris en poche dans sa collection là, à la table ronde. Ouais. Donc voilà, lisez ce livre. Et là aussi, c'est une réflexion sur la langue, sur le déclassement, sur ne jamais être à sa place, un peu ici, un peu là. Et Prudhon, c'était vraiment ça. Parce que je vais pas citer de nom, mais la famille du polar est une
grande famille merveilleuse.
Voilà,
famille
c'est
du
comme
polar.
Celle du cinéma. Hein. Et ben Prudhon, moi j'ai fait pas mal de festivals où on ricanait en coin là, quand le pochetron, le machin et tout. Ouais. Parce que Prudhon, c'est un écorché vif. Et quand il fait les choses, il les fait pas à moitié. Et c'est un peu, enfin, c'est toujours un peu mon cas, et c'est pour ça qu'on adorait ça. Et effectivement, quand on faisait la langue chienne, c'était des longues séances de travail parce que c'est de l'orfèvrerie, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs où on parle de structure avec Prudhon, vu qu'il n'y a pas de structure de toute façon, on sait qu'on va pas parler de la structure, c'est un fil qui se déroule. Donc c'était plus de renforcer, d'enlever, j'appelais ça des jeux de Mikado littéraire, parce que c'est vrai qu'on enlevait une phrase, tout d'un coup ça faisait plein d'échos effectivement dans toutes les autres pages. Donc c'était très long, on a passé plusieurs mois. Votre long, c'était aussi qu'on se marrait à se voir et on travaillait en buvant des coups et tout. Donc je pense qu'on a poussé le jeu, allez encore une soirée à boire des coups, à retravailler, pardon. Et je me souviens très bien, donc on avait fini ce manuscrit. On était là, bon, c'est bien, il était chez Gallimard avec son grand manteau et tout. Puis on s'est dit, bon, allez, on va se la jouer royale, parce que d'habitude, on allait plutôt boire des bières à 2 euros. Là, on se dit, on va au Select, et on se la joue royale au bar.
La bière à 20 euros.
Bière à 20 euros et surtout Margarita à je sais pas combien. Et donc on a pas mal picolé ce soir-là. Moi, je rentre, je sais pas comment. Et je reçois le lendemain un coup de téléphone de sa femme, Sylvie, que j'adore, et qui me dit il est où Prudhon ? Je ne sais pas où est Prudhon. Il est en fait réapparu 2 jours plus tard. Il avait erré comme ça dans la ville. Je le voyais très bien errer. Et il avait effectivement perdu, évidemment, il avait perdu son manuscrit. Donc on a dû tout refaire à nouveau. Et il n'était pas du tout désespéré par la perte du manuscrit. Enfin, moi, il m'arrivait d'autres cas avec d'autres auteurs. Prudhon, il avait un rapport. Ça coulait. Mais, comme je vous disais, quand il écrivait un mail, c'était de la poésie. Donc, de toute façon, bon, on va refaire ça, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et si je voulais lui rendre hommage, parce qu'il faut être honnête, hein, on n'est pas parfait, j'ai failli, je dois avouer. Parce que ces dernières années, ma vie avait été un peu compliquée, j'allais dire, dans ma vie privée, j'étais un peu déprimé. Et j'avais du mal à partager ce désespoir commun qu'on avait avec Hervé. Et j'étais un peu moins présent, quoi. Et cette nouvelle collecte là que je crée, pour moi, c'est un tremplin pour ce genre d'auteur. C'est-à-dire, on fera des romans noirs
pour les Prudhons de demain.
Mais en même temps, voilà, c'est les marges quoi, qui m'intéressent. C'est les marges qui définissent ce centre, en fait. Et donc, c'était pour lui aussi cette collecte. Et là, j'étais en plein dans la préparation du truc et j'apprends ça et voilà, je suis assez désespéré parce qu'on avait un projet qui s'appelait même les femmes fatales sont alcooliques, qui devait se passer dans un camp. Beau lapsus de l'alcoolique dans un centre de traitement d'alcoolisme et voilà, déjà rien qu'en parler, on voyait tout cet univers. Donc je l'appelais je l'appelais mon petit papa des étoiles, quoi, parce que vraiment il me faisait rêver. Et juste une dernière anecdote pour parler de sa tendresse, parce que c'est ça, j'adore, c'était la tendresse, c'est ce qu'il y a de plus classe en fait. Et ben, il me parlait d'un auteur dont je citerai pas le nom, 68 tard et tout ça, qui a un goût pour les jeunes filles, quoi. Et lui, il était là, enfin les jeunes filles légales, en vrai, mais enfin les jeunes femmes. Les vingtenaires, on va dire. Et lui, il était là, je me souviens très bien de Marchand, il était mais c'est quand même dingue, parce que, à nos âges, quand même, comment, alors là, il commence à se foutre à poil, c'est-à-dire, on sortait de déjeuner, hein, Et il se met, mais torse nu, en plein Saint-Germain, on devait être au mois de novembre ou décembre, donc Prudhon est maigre, et c'est un doux euphémisme, hein. Et donc il était là, torse nu, et il était, mais comment imposer ce corps à une jolie jeune femme? Et je trouvais ça d'une gentillesse dans le fond, c'est-à-dire que c'était vraiment le souci de la fille, quoi. Et voilà, c'est un peu ça, Prudhon.
Merci Aurélien Masson pour ses souvenirs et cet hommage à Hervé Prudhon autour de la table. Macha Seri, vos lectures de Prudhon?
Oui, alors moi je garde un souvenir très ému d'un livre qui s'intitule Nadine Mouk, qui est sorti en 1995 et où il y a ce ton de désenchantement qui me rendait cet auteur très cher. Voilà. Donc c'est un titre que je comme La langue chienne, qui est incontournable pour moi dans son œuvre.
Élise Lépine.
Oui, moi j'ai aussi un souvenir vif d'ailleurs de La langue chienne, qui est un livre bouleversant. Effectivement, on sent toute cette complexité dont parle Aurélien Masson, même sans avoir connu Hervé Prudhon. On a à la fois cette poésie, cette tendresse, cette désespérance, et puis la violence aussi, qui est quand même très grande dans ce livre et qui est diluée comme ça dans toute cette humanité très très violente chez lui, très vive.
Moi, c'est un des auteurs qui envoie un peu paître la notion de genre. Et ce que je trouve passionnant dans son parcours, c'est qu'il a commencé comme auteur de polar avec des flics, avec des petit à petit, on sentait que la seule chose qui l'intéressait, c'était ça, c'était la peinture de cette humanité un peu miteuse, en même temps pleine d'amour, de tendresse, prête à en donner, qui n'en reçoit pas assez. Et ça l'a amené à des livres dont tout prétexte policier est exclu, comme ce livre très beau sur l'hôpital qui s'appelle Cochin juste, toujours tranquille à Cochin, je suis Cochin juste. Voilà, qui est un livre extrêmement fort. Et c'est ce passage de l'un à l'autre, et ce qui fait que le meilleur en fait du polar, on peut se dire, c'est aussi quand ça en sort et quand on se retrouve à écrire sans s'embarrasser de flics et d'enquêtes.
Nous n'oublierons pas Hervé Prudhon, on continuera à le lire et puis on continuera à lire les Prudhons de demain, tels qu'édités, nous le souhaitons, bientôt par Aurélien Masson dans sa future collection. On retourne maintenant à notre programmation d'actualité du polar d'aujourd'hui avec Gilles Léovi, Côté ghetto, c'est chez Sonatine. My Soul, les chorales du pasteur Barrett, un peu de gospel dans ce monde de brut, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist de Polar dans Mauvais Genre en ce samedi. Côté ghetto, Macha Seri, quel ghetto et quel côté? Pour tout vous dire,
donc,
dites-nous
c'est
tout.
C'est le surnom d'un quartier qui s'appelle le South Central. Il faut savoir qu'à Los Angeles, c'est les quartiers du Sud, hein, qui sont les plus chauds et les plus criminogènes. Donc, Watts, Compton.
Et donc là, c'est une enquête. J'ai choisi une enquête parce que la littérature n'est pas forcément que de la fiction. Et là, c'est une enquête donc qui porte sur cette ville que tous les amateurs de polar connaissent bien, pour peu qu'on ait lu ces classiques, hein, que ce soit Raymond Chandler, John Fante, James Ellroy, Michael Connelly. Et elle fait partie. Donc c'est son premier livre. C'est une journaliste du Los Angeles Times qui est entrée dans ce journal donc en 2001 et qui a été chargée de suivre les crimes dans la ville. Elle a eu cette chance que les Américains ont parfois d'être très très embedded. Enfin, je ne sais pas si le terme n'est pas très très beau. Incorporé. Je vais vous expliquer.
Immergé, oui. En immersion.
Voilà, parce que en 2003, elle obtient d'avoir son propre bureau dans la salle des inspecteurs du commissariat du 77e district, et elle a la fréquence de la police dans sa voiture, qui lui permet vraiment d'être sur les scènes de crime très vite, où elle recueille les témoignages des familles de victimes, de passants, etc. Et elle a fait l'initiative qui est formidable, et dont ce livre est un peu le prolongement. C'est-à-dire que sur le site de son journal, entre 2006 et 2008, elle a tenu un blog où elle a documenté, je dirais, en temps réel, tous les crimes qui se déroulaient dans la ville, sachant que, par exemple, dans les plus fortes années, si je me souviens bien, entre 1990 et 93, il y a eu près de 6000 meurtres, principalement des meurtres de jeunes hommes noirs, perpétrés par d'autres meurtres de jeunes hommes noirs. Et donc, elle appelle ça une épidémie. Elle essaye de remettre dans le contexte et en perspective les causes de cette violence qui est endémique. Et ce que je trouve formidable dans ce livre, c'est qu'elle fait partie de ce courant, moi, que j'aime bien et qu'on découvre de plus en plus, de le new journalism, qui est un thème, enfin qui signifie nouveau journalisme, c'est pas, et donc qui est une sorte de récits du réel qui ont été élevés au rang de genre littéraire par des écrivains qui ont été des rockstars dans les années 60, hein, qu'on pense à Guy Talese, Norman Mailer,
Hunter Thompson,
voilà. Et donc elle est vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire on sent que c'est une journaliste qui a la passion de la vérité et qui essaye de rendre compte de la complexité des choses et de reconstituer vraiment des ambiances, des situations, des séances d'interrogatoire. Et c'est ce qui rend son livre passionnant, qui se lit un peu comme une fiction, en fait.
Côté ghetto, le mot traduisait bien la situation, mêlant la géographie et le statut à la précision poétique et au mensonge pervers du voyou. C'était à la fois un lieu et un problème. Et cela permettait de mettre un nom sur cette ségrégation invraisemblable qui caractérisait toutes les poches de violence noire dans le comté, Athens, Willowbrook, certaines parties de Long Beach, Watts. Il y avait une ressemblance entre ces endroits et les méthodes policières qui étaient appliquées. John Skaggs était côté ghetto jusqu'à la moelle. Il ne prit jamais la peine d'expliquer à son oncle ce qu'il ressentait. Aux yeux des autres flics, côté ghetto, c'était là que les véhicules de patrouille se faisaient mitrailler, que les claviers des ordinateurs étaient poisseux, que les journées de travail étaient interminables, que les staphylocoques résistaient aux antibiotiques. Travailler là-bas, c'était éprouver un sentiment d'inutilité. Renoncer aux promotions, affronter tous les problèmes stressants, sinistres et déprimants que connaissaient les Noirs pauvres. Pour Skaggs, en revanche, côté ghetto, c'était là où il fallait être. L'endroit où il y avait vraiment des choses à faire. Quand il en arpentait les rues, il était heureux. Avec ses chemises élégantes et ses cravates coûteuses, il roulait dans les ruelles sales, toujours en forme, à bord de sa voiture, toujours lavée et nettoyée.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait de Côté Ghetto de Guy Levy, notre premier sujet ce soir dans Mauvais Genre, Cercle Noir spécial polar. Hubert Prolongeau.
Moi, c'est un livre effectivement que je trouve formidable, à la fois par ce qu'il raconte et par la manière dont il le raconte. D'abord, il y a quelque chose de très émouvant. Et moi, c'est un journaliste qui me bouleverse toujours. C'est d'essayer de redonner une voix à des gens qui n'en ont pas eu. Et là, elle le fait magistralement. C'est la suite de son blog. Et on voit vivre, mais vivre vraiment, pas juste des noms comme ça sur un article. Des gens qui, jusque-là, sont un peu des caricatures, sont un peu des clichés, sont un peu... Et ça, c'est assez formidable. Et l'autre chose, c'est cette espèce d'imbrication. Alors, dans ce cas-là, ça reste du documentaire, mais auquel on donne un ton fictionnel. Et ça me fait penser à plein de gens. Évidemment, la référence qui vient tout de suite, c'est David Simon et Baltimore et ses livres. Il y a eu Miles Corvin aussi avec Homicide Special. Donc, qui prennent un sujet et l'explorent à fond. Et ça m'a fait penser, curieusement, à un autre Simon, une autre Simon, qui est Claire Simon, qui, en France, fait un travail beaucoup moins dramatique, beaucoup moins social, et un peu du même genre, et qui a fait un film qui est un des très, très beaux films français de ces dernières années, qui s'appelle Gare du Nord, et qui, dans cette implication entre la manière documentaire de filmer un endroit et l'imbrication de personnages qui, eux, sont mi-fictifs, mi-inspirés par la réalité, a réussi quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc, c'est une voie, vraiment, de journalisme qui devrait être creusée. Et pour une fois, et enfin, comme souvent, le côté incorporé n'est pas gênant. Souvent, le problème de ce côté embedded, comme on dit, c'est que c'est une manière pour les institutions de récupérer les journalistes emmerdants. Et au lieu de les mettre dehors par la porte et qu'ils rentrent par la fenêtre, on les amène en leur tenant la main et en les promenant où on veut. Donc, en fait, c'est beaucoup plus un piège de communication qu'un outil de plus donné au journalisme. Et là, elle a parfaitement, malgré quelques personnages parfois de flics peut-être un peu trop positifs, a quand même dans l'ensemble très bien rendu compte de ça, de la complexité du métier, de ce que sont les hommes à l'intérieur de cette institution, sans qu'on la sente complice. Donc c'est un vrai travail d'observation et un livre qui est assez formidable. On a moins ce genre de livre en France, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que ça nécessite en temps des moyens que les éditeurs français ou les journaux français ont de moins en moins la possibilité de donner aux journalistes.
Alors je me tourne vers Aurélien Masson, ça vous tenterait de donner ces moyens à des journalistes ?
Un journaliste, encore une fois, on plante des graines, hein, ça sera là dans 2 ans peut-être, mais ça sera ça, une sorte d'exploration d'un fait divers et de se plonger vraiment dedans. Et c'est drôle parce qu'on dit nouveau journalisme, mais enfin c'est de sang froid, c'est quoi 1960.
Oui.
Enfin, c'est l'expression, mais c'est effectivement une voie qu'il faut explorer en France. Il y a de plus en plus de gens, et puis aussi des maisons d'édition là qui commencent à faire ça, genre ceux qui faisaient, j'ai oublié leur nom, mais qui faisaient Tokyo Vice. Enfin, on voit bien que cette nouvelle voie est en train d'apparaître, et moi j'ai très très envie de la défendre parce que je trouve que c'est vraiment, moi j'aime le rapport au réel dans le roman noir, donc là
quel
on
corps.
Est sursaturé.
Élise Lépine.
Oui, c'est vrai que c'est important de sortir des livres comme ça, et puis on a envie de sortir cette formule très nulle et qui serait totalement obscène dans ce cas de ça se lit comme un roman. Parce que justement, quand on découvre cette réalité qui est, je ne sais plus, c'est 6% de la population est noire et représente 40% des crimes, si je ne me trompe pas. Hein, ouais. C'est ça les chiffres. Ouais. Et c'est complètement choquant, puisqu'on se rend compte que c'est finalement toléré, qu'il y a une complaisance de la justice sur ce phénomène-là. Finalement, on se débarrasse un peu, on les laisse se tuer entre eux. Il y a ça aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, c'est ce que j'ai perçu en lisant le livre, ce qui est totalement choquant. Et on se rend compte que ça, c'est pas du tout exploité. D'ailleurs, dans la fiction, on n'a pas, dans des séries, pas d'épisodes des experts où finalement le noir a été tué par un noir. C'est totalement banalisé, c'est totalement évacué, occulté. Et ça, c'est important de mettre le doigt dessus et d'expliquer ce phénomène qui a beaucoup de place quand même dans la criminologie américaine.
Et je pense que ça va revitaliser le roman noir, parce que le roman noir américain, en ce moment, ça fera réagir et tant mieux.
Très bien.
Mais je trouve qu'il traite sa mythologie. Donc c'est les pères, les fils, les trailer parks, les machins. Enfin, on a l'impression, c'est bien défini, c'est le nouveau noir. Et comme par hasard, toutes les questions politiques, les rapports de classe, les rapports de race, même les engagements militaires des États-Unis, ce qu'ils font avec l'écologie, les oléoducs, les Indiens qui se font casser la tête au Dakota du Sud, ça on n'en parle jamais. Et je reçois par exemple, en pleine période où les flics blancs tuaient, c'est tout le temps, mais il y a une période où ça se voyait vraiment, vraiment, donc les gens se sont sentis obligés d'en parler. Je reçois un manuscrit américain, on me dit « Ah, c'est génial, ça va être une série Netflix, HBO, je sais pas quoi ». Et ça parlait effectivement de la condition des Noirs, mais en 1947 à Baltimore. Et donc c'était aussi une manière, certes j'en parle, mais en fait je parle surtout pas du présent. Et donc les Ricains, là, ils ont un problème en ce moment à scoltiner le présent, et je pense que ce genre de livre, c'est aussi un peu un coup de pied de l'âne, quoi. Il faut se réveiller un petit peu et retourner dans cette mission de faire feu de tout bois.
C'est vrai que même Détroit, qui est le dernier film d'envergure traitant du problème du racisme, est un film qui raconte un fait divers des années 60, et qu'on aimerait que Bigelow, qui en a le talent et maintenant la position à Hollywood lui permettant de le traiter, s'attaque effectivement à des sujets aussi forts, disant les mêmes choses et plus actuels.
Gilles Léovy, Côté Ghetto, c'est aux éditions Sonatine. Par Laurent Polleret, si j'ose m'exprimer, donc son choix de la playlist de ce soir. Deuxième titre évoqué dans Mauvais Genre ce samedi, Après la chute, de Denis Lehane, c'est bien sûr aux éditions Rivage. Je dis bien sûr, puisqu'il y a une fidélité quand même de l'auteur à son premier éditeur.
Voilà, qui va peut-être changer maintenant que le éditeur est parti ailleurs, mais pour l'instant, Lehane est toujours chez Rivage. Alors justement, Lehane est un auteur qui est tout sauf inconnu, c'est un auteur extrêmement consensuel, tout le monde a aimé, il est adapté au cinéma, il fait des scénarios, et donc on reçoit son dernier livre, je l'ai lu et je l'ai aimé, et de manière amusante, puisque nous journalistes, qui font partie des privilégiés de ce pauvre monde, recevons les livres avant tout le monde, donc on peut les lire avant de lire ce que d'autres écrivent dessus, et ce Lehane se fait dégommer à peu près partout, sur les forums de lecteurs, c'est assez amusant donc de jouer l'avocat du diable pour une fois. Alors en fait, déjà économiquement, une journaliste, Rachel Childs, qui a de gros problèmes d'identité, donc sa mère veut pas lui dire qui est son père, elle le cherche désespérément. Elle part en reportage en Haïti et elle n'est pas très équilibrée et elle fait une crise de panique qui ruine une carrière qui était en pleine ascension à l'écran. Elle est obligée de démissionner et là, elle s'enferme totalement chez elle et ce n'est que le début. Économiquement, c'est une très bonne affaire ce livre, même s'il coûte 22 euros, parce qu'il y a 3 livres en un. Donc vous divisez, ça fait à peu près chaque bouquin autour de 8 euros. Le premier est un roman psychologique, justement, sur cette femme en quête d'identité, qui est sur un thème à la Harlan Coben ou la Douglas Kennedy, mais c'est quand même infiniment meilleur. Lui succède une espèce de thriller hitchcockien. Notre Rachel épouse un homme, et elle s'aperçoit qu'il n'est sans doute pas tout à fait celui qu'elle croyait. Et en troisième, arrive un polar à la Richard Stark. Vous savez, Richard Stark, c'est le pseudo de Westlake pour ses romans très durs, avec un héros nommé Parker, qui est un cambrioleur sans scrupules et sans... Et là, on tombe là-dedans avec des tueurs à gages, avec des hold-up, avec des courses-poursuites. Et alors, ces trois romans sont plus ou moins réussis. Moi, je les trouve plutôt bien les uns comme les autres. Mais on se dit un peu, OK, au-delà de la virtuosité évidente, de l'exercice de style, où tout ça nous mène. Et alors, à la fin, il y a une fin, comme souvent chez Lehane, qui est extrêmement habile. Je sais pas si vous souvenez de celle de Shutter Island, qui a amené à relire tout le livre différemment.
Une chute,
sans que tout le monde, d'ailleurs, l'ait totalement
pendant
compris.
Pendant la chute.
Moi-même, je suis jamais sûr, je suis pas encore sûr d'avoir absolument compris la fin de Shutter Island. Mais en tout cas, elle vous cloue. Et là, c'est pareil. En une page, quasiment, Lehane nous tous les fils de ses précédents romans et renvoie tout au début et redonne immédiatement la primauté au premier thème qui était celui de l'identité. Et là, il y a une espèce de tour de force que je trouve extrêmement, extrêmement réussi, d'autant qu'il y a une vraie différence d'écriture, puisque Léa, c'est pas l'école d'Achille Hamet, quoi. C'est pas l'écriture très courte et très... Dès qu'un éditeur se sert des cornflakes, on a la description de la boîte, le paquet, si ça craque sous la dent. Il fait d'ailleurs du placement de marque de manière un petit peu abusive. En tout cas, 450 pages sont écrites comme ça, de manière pas ennuyeuse du tout, mais très précise, et il y a une espèce de fascination qui vient même de cette accumulation de détails. Et la fin, alors qu'on se dit au bout de 450 pages comme ça, on va quand même avoir au moins 20 pages pour tout comprendre et tout, pas du tout. En 3 pages, c'est embarqué, ça va très vite, et il y a une espèce de fin très ouverte qui renvoie aux angoisses de l'héroïne. Et je trouve qu'il y a là un espèce de tour de force assez habile, et que le côté un peu épars des trois différentes parties du début du livre a fait passer trop inaperçu. Donc moi, c'est un livre qui n'est peut-être pas le chef-d'œuvre de son auteur. Effectivement, ça vaut peut-être pas sa dernière trilogie, la saga des Coughlin, qui est une histoire de mafia, qui d'ailleurs, signalons-le, ressort chez Rivage en un seul volume. Et c'est très bien d'avoir comme ça toute une série. Ils font ça pour celui-là et pour la série encore plus géniale de David Peace, 1974 et ses suites.
Monument des monuments.
Qui ressort en un volume. Et voilà, même si après la chute n'atteint pas tout à fait au niveau de ses précédents opus, ça reste un livre assez fascinant et très très trompeur. Et moi, j'ai pris un vrai plaisir à être manipulé comme ça par ce grand maître qui est Denis Lehane.
Un mardi de mai, l'année de ses 35 ans, Rachel abattit son mari d'une balle en pleine poitrine. Il recula en titubant, l'air étrangement résigné, comme s'il avait toujours su, au fond de lui, qu'elle en arriverait là. Il paraissait également surpris. Elle aussi, supposait-elle. Sa propre mère ne l'aurait pas été. Cette dernière, qui ne s'était jamais mariée, était l'auteur d'un ouvrage devenu célèbre sur les clés d'un mariage réussi. Le titre de chaque chapitre correspondait aux différents paliers qu'Elizabeth Childs, titulaire d'un doctorat, avait identifié dans toute relation née d'une attirance mutuelle. Le livre intitulé « L'escalier » avait connu un tel succès qu'elle s'était laissée convaincre, ou plutôt avait été contrainte d'écrire deux suites, « Remonter l'escalier » et « Les paliers de l'escalier, exercice pratique », qui s'était moins bien vendu que le premier de la série. Si elle admettait volontiers en privé que les trois tomes avaient un petit côté psychologie de bazar, elle éprouvait néanmoins envers l'escalier une tendresse teintée de mélancolie, car elle n'avait pas eu conscience au moment où elle le rédigeait d'en savoir si peu sur le sujet. Voilà un extrait d'Après la chute de Denis Lehane qui a recueilli le suffrage d'Hubert Prolongeau, sans doute moins celui de Macha Seri.
Oui, moi je trouve que c'est un grand écrivain, mais comme dans les grands vins, il y a des grands crus, et ça c'est pas un très bon cru. Ce que tu dis est très vrai, c'est qu'il y a trois parties, mais je trouve qu'elles sont accolées un petit peu sans cohérence, je ne sais pas comment dire. Et le plus intéressant, c'est peut-être la dernière, ce que tu appelles le thriller psychologique. Mais là, c'était vraiment, moi, c'est ce qui m'a pas plu. On a depuis Gone Girl de Gillian Flynn et La fille du train, une flopée de thrillers qu'on range sous une appellation qu'on nomme le domestique noir, c'est-à-dire tous ces huis clos conjugaux où finalement l'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi est infiltré dans sa penderie, dans son lit. C'est une cellule dormante et peut-être même qui ronfle. Et je trouve que cette ce thème, il est éculé là. Moi, j'ai lu quantité de choses sur le sujet où finalement on ne connaît pas la femme ou l'homme qui partage sa vie. Je crois qu'on a compris.
Voilà. Oui, mais justement, Léane l'a perverti ce genre. Il s'en sert et il le fait rebondir pour autre chose. Et c'est cette fin qui lui donne une autre visibilité. Et chez Léane, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup de la perversion de choses de genre. Le roman de gangster, le roman noir classique avec Mystic River, le film de fou avec Shutter Island. À chaque fois, il met une touche personnelle dans un genre dont, pendant très longtemps, il fait croire qu'il le sert. Et en fait, c'est lui qui s'en sert. Et ça, je trouve ça assez habile et assez excitant.
C'est bien ce que tu dis, mais je trouve que c'est mieux ce que tu dis que le livre.
Le commentaire d'Hubert Prolongeau est plus...
Je vais vous permettre à écrire. À la teneur du livre.
Donc les livres d'Hubert Prolongeau sont disponibles aux éditions Rivages. Élise Lépine, alors voilà.
Bah, moi j'ai trouvé que c'était un livre qui avait à la fois les défauts et les qualités d'un premier roman, bizarrement. Pourtant c'est vraiment pas un premier roman. Oui, il y a cet enthousiasme qui fait qu'il ouvre plein de portes comme ça, comme vous le disiez, Hubert. Et qui sont un peu déstabilisantes et qui peuvent être un peu effectivement frustrantes ou presque ennuyeuses aussi. Hein. Cet enfer domestique, ce côté, voilà, mon mari, je le connais pas, je le connais, je sais pas, je doute. La folie, le journalisme, le père, bon, tout ça est un peu confus, un peu, ça nous perd un peu. En même temps, il y a un enthousiasme vraiment aussi d'ouvrir ses pistes et de partir que j'ai pas trouvé. Moi, j'ai repensé à son premier roman, pour le coup, Un dernier verre avant la guerre, si je me trompe pas. Qui est plus classique et qui n'a pas cette allure de premier roman qu'a ce dernier roman qu'il a. Son côté badass m'a quand même manqué, quoi. Voit dans la troisième partie, un peu.
Qu'est-ce que vous appelez son côté badass?
Son côté, voilà, le côté dur, le côté gangster, torture, violence. Voilà, on est dans quelque chose qui maîtrise très bien, qui fait très bien et que j'aime beaucoup chez lui, qui est dans Un dernier verre avant la guerre et dans toutes les enquêtes de son duo d'enquêteurs, là, Kenzie et Gennaro, que j'aime beaucoup, moi, et qui m'ont manqué, là.
Après la chute, eh bien, accompagné ou pas, donc dans sa chute, Les héros de Denis Léane, c'est aux éditions Rivage. Voilà, Caretaker, une passion que j'ai en commun avec Laurent Polleret pour toutes les songeries nostalgiques sur un passé qui n'est plus, qui n'a peut-être même pas existé. Écoutez, Caretaker. On termine avec L'été de Katia aux éditions Gallmeister, un roman de Trévagnant. Alors Trévagnant, personnage mystérieux là.
Personnage mystérieux, l'auteur lui-même est un roman. Parce que si on va sur le site des éditions Gallmeister, on a maintenant sa biographie, on lève le voile sur cet auteur qui d'ailleurs avait... je crois, payer quelqu'un pour être son double, pour se faire passer pour lui. Il apparaît dans les années 70 avec La Sanction, 72, et on se demande qui est-ce, et puis on ne sait pas, il s'est caché un peu toute sa vie, et puis finalement maintenant on sait qui c'est. Enfin, moi je trouve ça un peu décevant qu'on sache qui c'est, j'aimais bien que ce soit un auteur très mystérieux. En tout cas, voilà, L'été de Katia est un roman qui est republié aujourd'hui par les éditions Gallmeister, un roman de 82, qui est très différent de ses autres livres à Trévagnant. En fait, c'est un roman qui est à la fois avec et sans suspense, puisque ça s'appelle L'été de Katia. Et effectivement, l'action se concentre sur un été, l'été 1914.
Ah oui, pas n'importe quel été.
Voilà, pas n'importe quel été. Et le narrateur, c'est un médecin un peu vieillissant qui se remémore cet été 1914. Il s'appelle Jean-Marc Monjean et il a rencontré dans la petite ville de Sali, au Pays Basque, ou Saliès d'ailleurs, je ne sais pas.
Ah voilà,
grande question.
Le débat est
doux. Il a rencontré sur cet été la jeune Katia, donc, qui vient d'arriver dans cette ville avec son père et son frère jumeau, son frère Paul. Et en fait, ce jeune médecin qui est un peu pompeux, qui est un peu maladroit, qui est passé d'ailleurs par la clinique du docteur Blanche, c'est intéressant, ce fameux docteur Blanche qui a soigné Maupassant.
Qui était encore ouverte en 1914.
Il a été son étudiant en tout cas. Il le dit. Et donc, il va s'enticher de cette fameuse Katia, sauf que le frère jumeau de Katia va avoir une relation très ambiguë avec lui, puisqu'il l'accueille à la fois comme un ami dans leur maison, dans leur demeure, et en même temps, il lui interdit de tomber amoureux de sa sœur. Donc, il va y avoir une relation très ambiguë qui va se tisser entre ce jeune médecin et la jolie Katia, qui, elle, est hantée. Elle dit qu'elle voit un fantôme dans son jardin, que c'est un fantôme qui a 15 ans et demi, mais elle n'en dit pas vraiment plus. Donc, on ne sait pas si elle est folle ou... si elle est traumatisée par quelque chose, il y a l'ombre de la psychiatrie qui plane aussi sur le roman. Dans quelque chose à la fois fantomatique, à la fois psychanalytique, et en même temps, il y a un nœud de tension qui va se nouer. On va avancer petit à petit vers un dénouement dramatique, et on va comprendre pourquoi il y avait cette interdiction de tomber amoureux de Katia. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tomber amoureux de Katia, qui d'ailleurs, dans la première partie de sa vie, portait un autre prénom et qui a décidé de se rebaptiser Katia dans son adolescence. Donc on va également comprendre pourquoi. Donc c'est un roman comme ça qui se tend. Il y a de très belles scènes. Par exemple, il y a une scène de fête païenne au Basque. Pays Basque, voilà, avec une vierge pure qui est immergée dans l'eau, avec une baston incroyable qui est chorégraphiée comme ça, avec beaucoup de style. Et on se rend compte que effectivement, Trévagnan, c'est un auteur qui excellait plutôt dans l'art du pastiche. Il pastichait le roman d'espionnage, il pastichait le polar, il pastichait le western, tout un tas de genres. Et là, il pastiche. Moi, j'ai pensé donc au roman gothique. Alors, on peut peut-être être d'accord ou pas d'accord, c'est pas non plus du vrai roman gothique. On pense aussi au de Hurlevent, par exemple, avec cet amour contrarié qui ne verra jamais le jour, qui sera un peu avorté et malheureux. Voilà, donc on est vraiment dans un texte hybride et qui m'a envoûtée.
Tandis que je marchais vers Sally sous un ciel bleu de Prusse constellé d'étoiles brillantes, paradis accessible, je songeais aux discordances de la soirée à Echeberria. Les joyeux bavardages du dîner face aux sombres avertissements de Paul, la gaieté spontanée de Katia qui se divertissait d'un rien, de jeux de mots comme de cailloux face à ses soudains accès de mélancolie rêveuse, la gentillesse brouillonne de Monsieur Tréville face à la peur de ses enfants qu'il n'apprenne mon affection pour Katia, c'était un tableau peint à moitié en aquarelle et à moitié au couteau, avec des couleurs criardes. Et j'avais la conviction désagréable que c'était l'aquarelle qui était artificielle, tel un léger lavis recouvrant des portraits plus inquiétants. Voilà un extrait de L'été de Katia de Trévagnan. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Élise. D'abord, c'est un livre qui n'est pas écrit au son du canon, mais à la lumière de l'Apocalypse, puisque c'est l'été 14. La belle époque va s'effondrer dans les tranchées de Verdun. On est aux franges de la Première Guerre mondiale. Et donc, tout le roman est baigné par cette espèce d'inquiétude, de fausse décontraction, de climat menacé, comme ça, d'une espèce de bonheur crépusculaire, menacé par un apocalypse futur. Donc déjà, c'est l'arrière-plan du roman. Mais Trévagnan le fait sentir de manière extrêmement habile. Et puis je trouve qu'il a un talent de portraitiste psychologique formidable. Il y avait notamment le docteur Gros, puisque Jean-Marc Monjean, qui est le héros, qui est un médecin qui a dû fuir Paris suite à une sombre histoire de psychiatrie. Jean-Marc Monjean a un patron qui s'appelle le docteur Gros, qui est une sorte de notable villageois rondouillard, paillard, goguenard, enfin tout ce que vous voulez en art, et qui est magnifiquement peint par Trévagnan. Le professeur Tréville, personnage un peu bernanosien, de l'érudit, confit dans son bureau comme une espèce de bocal au milieu de ses fiches poussiéreuses, et très 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 convaincant. Et puis alors les jumeaux de la mort, enfin on peut dire les jumeaux maléfiques sont tout à fait étonnants. Moi je trouve que c'est d'abord et avant tout, indépendamment de la qualité du décor et la manière dont il campe ce climat d'août 14, c'est pas Martin Dugard, c'est vraiment autre chose, beaucoup plus, c'est assez différent. Eh bien, c'est la violence des portraits psychologiques et à l'acide.
Et avec une ironie incroyable. Le début, je crois que si les gens ont envie de découvrir, lisez les 20 premières pages, et si vous n'êtes pas conquis, laissez
tomber. Je vais vous les lire, là, attendez.
Mais il y a une, et dans le portrait justement du docteur Gros et de ses rapports avec son stagiaire, il y a comme ça une ironie, une perfection de langue qu'on ne trouve pas toujours dans les productions de ce genre. Après, si je peux me permettre, quand même, Léo de Hurlevent s'est tapé un peu au match. Je verrais plutôt ça du côté des grands livres de Daphné du Maurier, de Rebecca.
Oui,
de...
oui, mais moi je trouve que Daphné du Maurier s'inscrit dans la suite. Oui,
de Léo Durlevent. Voilà.
Oui, mais moi j'adore Léo Durlevent.
C'est un autre débat. C'est un autre débat. On salue même la traduction donc d'Emmanuel de Lesseps, revue par Marc Boulet. Ma chère série, un point de vue sur l'été.
Oui, c'est été d'avant 14. Et je pense qu'on l'a pas dit. Il y a donc trois personnages, trois hommes qui ont vraiment des styles de répartie qui leur sont propres. Donc il y a ce docteur Gros qui a un humour très salace. Il ne court pas la gueuse, mais il court les quinquagénaires ménopausées qui ont des bouffées de chaleur, qu'elles soient mariées ou non. Et il n'arrête pas de taquiner son jeune, là, le docteur Paul. On a cet érudit, donc ce vieil homme qui donne lieu à des gags qui sont liés à l'étourderie. Il n'y a pas plus à l'ouest que cet homme qui vit dans ce livre. Et le frère, Paul, il est très très amer, mais il est spirituel. Enfin, moi, il faut vraiment que je note plein de phrases que je pourrais ressortir comme ça. Ça serait génial.
L'été de Katia Trévagnon à lire. Mais non, ça n'est pas peut-être le Trévagnon habituel, mais vous êtes l'éditeur Trévagnon, Olivier Masson.
Non, mais je le ferai.
Ça va pas tarder.
Mais justement, l'intérêt, c'est est-ce qu'il y a un Trévagnon habituel? Parce qu'en fait, il change de genre avec une habileté.
Droit revers.
Une habileté extrême. Il a fait du western, il a fait du livre d'espionnage, il a fait du polar classique. Et à chaque fois, avec un talent, une virtuosité étonnante.
Trévagnon, l'été de Katia, c'est chez Gallmeister et Christophe Beer, c'est chez Mauvais Genre.
Johnny Ryan est né à Boston en 1970. Il est probablement l'un des cartoonistes américains les plus incorrects qui soient. Son œuvre est un défi irrespectueux au bon goût, une ode aux blagues salaces et stupides, à l'incorrection scandaleuse, à la scatologie, à la pornographie, à la bêtise et à la violence gratuite la plus roborative. Il est remarqué à partir de 1994 pour sa série de comics auto-édités Angry Youth Comics, puis publie pour Fantagraphics et le magazine Vice. Deux éditeurs français viennent de le traduire. Johnny Ryan touche le fond chez les jumeaux Misma, compilant des histoires courtes et des pages d'humour publiées dans Vice, est une introduction bien profonde à l'Amérique obscène brocardée par le dessinateur, avec un humour pipi caca dégueulis de sale gosse. La famille américaine s'étripe en magma gore, les flics se couvrent de merde, les bébés sont piétinés par une foule hystérique, le siège des toilettes contient un monstre, les talibans forment un groupe métal afghan en utilisant les GI démembrés comme instruments de musique, les super-héros sont des gays obsédés sexuels et Bill Cosby borde les enfants insomniaques. Entre l'humour provocateur d'Harakiri, les mutations horribles d'au-delà du réel et la série Z de science-fiction, Ryan cauchemarde d'aberrantes visions du quotidien. Le bonheur américain se réduit à un canapé dévoreur en peau humaine, un écureuil collectionneur d'art érotique, un gaufrier alimenté par fist et des fashion victimes anorexiques se nourrissant de peau de fœtus. Quant aux éditions Uber, elles ont entamé la traduction de la série phare de Ryan, Prison Pit, volume premier d'un sauvage récit de science-fiction post-apocalyptique. Cannibal Fuckface est un catcheur violent, la tronche noircie du sang de ses ennemis qu'un vaisseau défèque comme un étron sur une planète aride qui sent le sperme séché. Il y affronte des aliens visqueux aux membres extensibles, des slorges, limaces lécheuses se greffant aux moignons, une lady dactyle préhistorico-mutante au sexe griffu, mais aussi le noir et blanc dépressif de Johnny Ryan qui ose des suites de planches aboutissant à d'inexorables rectangles noirs. Les surfaces se fissurent dans des cracks assourdissants, engloutissent le combattant, les parois se déchirent en blessures vaginales sur des dimensions toujours plus angoissantes et minimalistes. Abyssale noirceur d'un monde futuriste réduit à la solitude, phase terminale de la mythologie des super-héros. Il n'y a plus d'héroïsme pour Cannibal Fuckface, juste une absurde survie sans répit.
Merci Christophe Beer. Je rappelle les sujets dont nous avons parlé ce soir à Mauvais Genre. L'été de Katia de Trévagnon, c'est chez Gallmeister. Jill Leovi, Côté Ghetto, c'est aux éditions Sonatine. Et Denis Léane, Après la chute, c'est bien évidemment chez Rivage. Je rappelle également que l'univers de Christophe Beer et de Céline Duchesnay sont retrouvables dans deux ouvrages, parus aux éditions Le Dilettante et aux éditions Nada. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Stéphane Desmonts, Serm Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Lise Lépine, Macha Seri, Hubert Prolongeau, Christophe Beer et François Angelier sont heureux de vous avoir accompagné tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, eh bien, pour la diffusion de la grande soirée anniversaire des 20 ans de Mauvais Gens qui s'enregistre en ce moment. Et puis on signale également à partir du 2 décembre 20 ans de Mauvais Genre à Mon Seul Désir, grande exposition chez Agnès B, 17 rue Dieu, c'est à Paris. D'ici là, bonne écoute avec France Culture et bonne nuit à tous.